Zigzag, Jean-Luc Lehmann, Jacques Briot, bonsoir.
Bonsoir, avec en invité ce soir, Jean Maurer, fabricant de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques à Aubonne. Des haut-parleurs, il a commencé par en fabriquer quand il était petit, puis pour quelques copains quand il faisait ses études d'ingénieur. Il a fini par équiper toute la classe, fini par ne faire plus que ça en parfait professionnel, fini par en vendre au Japon, fini par décrocher de prestigieux prix dans ce domaine. Avoir des haut-parleurs signés, fabriqués, pensés et dessinés par Jean Maurer est un bonheur rare. Il ne sort de son usine que 200 enceintes par an. Jean Maurer, bonsoir.
Bonsoir.
Vos oreilles sont dans quel état? Est-ce qu'elles sont pures et parfaites?
J'espère. Je ne sais pas.
Quand vous écoutez là, Jean-Luc, vous posez cette question, qu'est-ce que vous, à part le contenu de la question, tout de même, à quoi est-ce que vous êtes sensible dans la voix humaine?
Au timbre général, de toute façon, c'est clair. À l'équilibre tonal d'une voix humaine et puis à sa dynamique, à sa façon de se moduler.
Est-ce que vous trouvez que la caisse de résonance est bien faite?
Il faudrait que je tape moi-même, alors.
Allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous trouvez que la caisse de résonance est bien?
Ça se présente bien.
Qu'est-ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle de bonnes colonnes et de mauvaises colonnes? C'est-à-dire que je parle de colonnes à tailles égales, évidemment.
Alors, je pense que il y a deux critères fondamentaux qui peuvent différencier les produits qu'on fabrique de la majorité des autres. C'est d'une part que nos produits ont plus de micro-informations, plus de détails sonores que la majorité des autres. Et d'autre part, la dynamique, c'est-à-dire la façon dont les fortissimos et les pianissimos sont respectés par nos enceintes, permet d'écouter de la musique à plus bas niveau sonore avec un meilleur relief sonore que dans la plupart des cas.
Tout à l'heure, on était dans votre appartement à l'étage. On va faire une petite visite assez rapide de votre petite usine. Vous travaillez à deux avec votre épouse, vous êtes seuls les deux. Et puis, il y avait un amplificateur, ce qu'on appelle un préamplificateur. Et il n'y avait aucune possibilité de varier les basses, les aigus. Alors j'imagine que pour le grand public dont nous faisons partie, ça pose un problème. On se dit, mais tiens, c'est bizarre, j'aimerais mettre plus de basses, plus d'aigus. Ben non, c'est comme ça, le son est pur. C'est tout à fait étonnant.
Bon, je pense qu'à partir d'un certain niveau de qualité, un réglage de tonalité, basse, aiguë, un loudness, c'est un gadget qui devient inutile. Un bon système doit être équilibré impérativement, et s'il est correctement branché, bien installé dans une pièce correcte, pas forcément de grande dimension, il est inutile, voire préjudiciable, de mettre un contrôle de tonalité.
Vous êtes un pinailleur, comme on dit?
Je crois, oui.
Comment tout ça a démarré, le tout départ? Parce que c'est quand même assez particulier de fabriquer des haut-parleurs. Vous êtes un des seuls Suisses à le faire.
Eh bien, lorsque j'étais jeune, j'avais 14-16 ans. Avec mon frère, on avait construit des haut-parleurs pour mettre dans toutes les pièces de notre appartement de Lausanne, qui ne nous plaisait pas autrement trop. Et on avait fait un réseau de câbles, de modulation, de câbles haut-parleurs dans toutes les pièces qu'on pouvait commuter. On avait deux installations d'utilité. Il y en avait une chez mon frère, une chez moi. Et puis je pense que ça a dû être le départ d'une certaine passion pour la musique enregistrée. Et puis, le deuxième déclic a probablement, certainement été à la fin de mes études d'ingénieur. Pour me faire de l'argent de poche, je fabriquais des enceintes pour mes copains. Et à 3 mois du diplôme, tous mes copains me disaient « toi, tu vas faire des enceintes acoustiques parce qu'elles sonnent tellement bien que pour toi, la voie est tracée ». Et puis, j'ai décidé de définir mon propre cahier des charges de diplôme. J'ai diplômé sur les filtres d'enceintes acoustiques. Mon diplôme terminé, je me suis mis à mon compte. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise autre que la mienne. Ça fait une vingtaine d'années.
Quand les Japonais vous donnent des récompenses assez exceptionnelles en IFI, et qu'ils viennent vous voir ici, ça leur fait quel effet ?
À eux ?
Aux Japonais, oui.
Alors, ça leur fait un effet complètement bouleversant et surprenant, parce qu'ils s'attendent à avoir une entreprise de au moins 500 personnes, et puis ils arrivent dans une entreprise de 2 personnes, où le patron habite dans l'usine, où il y a quand même beaucoup de machines, vous allez le voir dans un instant, et puis 2 personnes qui utilisent toutes ces machines, qui font une gamme de 3 produits à 2 personnes. Pour eux, c'est inconcevable, mais ils sont assez enthousiasmés, je crois, du moins c'est ce qu'ils disent.
Nous sommes devant une machine. Est-ce qu'on pourrait d'abord, elle sert à quoi, vraiment très simplement, parce que pas trop technique, ça a l'air très technique comme ça, il y a un écran avec plein de chiffres, il y a plein de boutons, enfin, en quelques mots c'est quoi?
Alors c'est une fraiseuse à commande numérique avec changeur d'outils, on appelle ça un centre d'usinage CNC. C'est une machine qui nous permet d'usiner toutes les pièces de nos boîtiers automatiquement, sauf le chargement est manuel, mais autrement la machine le fait automatiquement, elle change d'outil automatiquement. Ça nous permet de garantir une précision tout au long de l'usinage. Là, je suis en train de faire 200 en dessous de JM320D, qui est notre milieu de gamme, et ces pièces ont une précision de plus ou moins 5 centièmes de millimètre. Si on veut que le montage du boîtier ensuite se fasse le mieux possible, il faut une grande précision.
Une petite démonstration peut-être? Ça fait un son intéressant pour la radio?
Peut-être, oui, on va y aller.
Alors Jean Maurer se déplace vers une grande machine bleue qui est une sorte de souperie. Vous avez enclenché quoi là?
L'aspiration.
Ah oui, parce que ça va faire de la poussière, hein, si c'est des plaques de contreplaqué.
Il faut embarquer la poussière au fur et à mesure.
Alors qu'est-ce qui se passe, vous racontez?
Elle va prendre son premier outil qui est une mèche de 8 mm.
Il sort d'une petite porte, c'est assez extraordinaire.
Oui, on appelle ça un coucou suisse, nous.
Et alors la mèche est maintenant introduite dans la machine elle-même par un bras.
Voilà, elle perce son premier trou.
Elle perce donc une plaque de dessous d'un haut-parleur.
C'est ça.
Deuxième trou.
Voilà, elle perce un trou dans chaque angle qui servira pour mettre des inserts métalliques, métriques 6, qui permettent ensuite de mettre au besoin des pinpoints vissés. Et le trou du milieu sert d'amorce pour l'ouverture du bornier.
Du quoi ?
Du bornier, c'est-à-dire qu'on a des filtres borniers qui viennent placer sur le dessous de l'enceinte depuis l'intérieur. Et pour accéder aux bornes de ce bornier, il faut bien une ouverture.
Jean Maurer, ce qui fait la qualité exceptionnelle de vos colonnes, c'est quoi ?
Alors c'est d'une part le boîtier qui est très anti-vibratoire, puisqu'il est muni d'un double dos avec du sable de quartz entre deux. Ce dos a une très très basse fréquence de résonance. Pour le grand modèle par exemple, il résonne à 8.7 Hz, ce qui est très très bas. Et deuxièmement, c'est les filtres répartiteurs de fréquence qui sont extrêmement rapides, qui sont plus rapides que tous les autres à ma connaissance.
Changement de mèche, la petite porte est rouverte avec une hausse, c'est assez marrant, avec une plus grosse mèche maintenant qui arrive, qui a l'air plus méchante.
Là, elle tourne à 25 000 tours minute, c'est une tête multiplicatrice qui va agrandir l'ouverture des trous, des 4 trous pour les têtes des inserts.
Combien de temps est-ce que vous mettiez pour faire ceci une par une au début?
C'était un petit peu plus long, mais c'était surtout très ennuyeux et beaucoup moins précis. Et puis je faisais des séries moins grandes.
Maintenant, elle commence à faire une découpe dans le bois. Ça, c'est fou, là. Elle fait une espèce de quoi? Elle fait un cercle, visiblement, ou pas tout à fait, oui.
Elle fait une découpe à deux fois, demi-épaisseur, maintenant elle descend.
Et puis elle redécoupe, elle refait un circuit circulaire entre les deux tables à coordonnées. C'est assez rigolo.
Alors c'est assez quand même exceptionnel de voir qu'un concepteur, un fabricant de haut-parleurs fabrique le boîtier lui-même, non ?
C'est très rare, effectivement. En général, les boîtiers, pratiquement toujours, les boîtiers d'enceinte acoustique sont réalisés dans des ébénisteries industrielles. Et moi, je n'ai pas voulu ça pour deux raisons. D'abord, je veux pouvoir les faire d'une manière originale. Et deuxièmement, je veux pouvoir les développer au mieux. C'est-à-dire que si, dans la mesure où on fait faire un produit, un boîtier d'enceinte acoustique, par exemple, on a moins d'idées pour son évolution technologique future.
Jean Maurer, à travailler tout seul, ici, avec votre épouse, toute la journée, est-ce qu'on devient pas un peu fou ?
Oh non, je crois pas, surtout quand vous venez me dire bonjour, et puis vous n'êtes pas les seuls à venir.
Il a passé son temps à faire que des zigzags, est-ce qu'on devient pas un petit peu zinzin ? Jean Maurer, est-ce que le haut-parleur parfait existe ?
Ah non, le haut-parleur parfait n'existe pas. Tout le monde essaye, enfin, tous les gens sérieux essayent de s'y approcher, mais le haut-parleur parfait n'existe pas.
Parce que je suis quand même étonné, on a une technologie très très sophistiquée là, et puis ça reste toujours la bonne vieille membrane, comme tout au début des haut-parleurs, c'est rien. Et comment ça se fait qu'on ne soit pas arrivé à dépasser la membrane technologiquement ?
C'est le seul système, en tout cas dans les basses, qui donne un résultat, un rendement cohérent, satisfaisant, et si vous prenez l'équivalent de l'automobile, pourquoi est-ce qu'on a toujours des pistons dans une voiture avec un bon vieux moteur à explosion ? On fait évoluer l'automobile, le moteur reste ce qu'il est. Même s'il évolue, les haut-parleurs évoluent, mais la membrane reste. Elle risque de rester encore bien quelques années, si ce n'est quelques décennies.
Jean Maurer, vos clients qui viennent vous rencontrer, quels sont leurs centres d'intérêt ? Enfin, qui sont-ils ? Parce qu'on a tous dans nos connaissances 2-3 fous de la hi-fi et qui, tous les 6 mois, changent de chaîne, qui vous en parlent, ça devient complètement dingue. Vous avez quel genre de rapport avec eux ?
Moi, j'ai un rapport que j'aime énormément. On organise des visites groupées sur invitation, bien sûr, avec des gens qui sont de tous bords. Il y a des passionnés férus, il y a des gens qui sont beaucoup moins connaisseurs. J'aime beaucoup leurs contacts. Ils apportent des idées très originales que les professionnels n'ont plus parce qu'ils ont l'habitude d'être ensemble. Il y a des gens de tous bords, il y a des grands passionnés, il y a des gens qui aiment simplement le beau son et qui ont un système qui a 3 ans ou qui a 15 ans, peu importe.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels quand ils vous parlent d'eux? Il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
Jean Morey, un client vient vous voir et vous dit, voilà, j'aimerais une colonne, j'adore vos colonnes, j'ai entendu, mais j'habite sur un petit studio, il y a une table, deux chaises, il n'y a rien d'autre, c'est nu et un linoléum par terre. Vous faites quoi? C'est un petit peu un problème pour vous, non?
Non, je ne pense pas. Si la personne veut écouter de la musique à bas niveau sonore, c'est à un niveau sonore raisonnable, disons, ce n'est pas un problème puisque nos enceintes sont faites pour donner un bon relief sonore à bas niveau d'écoute. Même dans une petite pièce, on peut obtenir un résultat tout à fait satisfaisant.
Alors là, vous venez de nous composer une musique extraordinaire. On peut l'écouter, c'est quoi?
Oui, c'est un balayage en fréquence d'un filtre médium de haut-parleur.
Ça sera beau.
Je sais pas, ce sera inattendu.
Oui, donc ça va partir dans un son très très grave. Tellement grave qu'on l'entend pas au départ. Sur un petit transistor, il reste quelque chose là maintenant?
Ah, maintenant, oui, tout à fait. Alors,
au départ, il n'y avait pas grand chose alors?
Ah, bah non, sur un petit haut-parleur, il n'y avait rien au départ. Et puis là, on est à 3000 Hz, il va encore rester quelque chose un petit bout sur un petit récepteur.
Ce qu'il y a de fou, c'est que si on ne peut pas écouter vos colonnes et les faire. On peut les écouter nous avec nos oreilles, mais on ne peut pas les faire écouter ou faire écouter leur qualité fantastique aux auditeurs. Hein.
Non, ni à travers un téléphone, ni à travers un petit récepteur, c'est clair.
Et vous arrivez une fois quelque chose, une petite anecdote là, justement à propos du téléphone.
Oui, une fois, il y a un client qui a téléphoné en me disant j'ai un pépin dans les aigus sur ma chaîne d'utilité. Je ne sais pas si c'est mon lecteur CD, si c'est mon ampli, si c'est mise enceinte. Alors je vais vite vous faire écouter. Et avant que j'aie eu le temps de lui dire non, c'est inutile. Et il a couru mettre son installation en marche et puis il voulait me faire écouter son petit problème dans l'extrême aigu à travers un téléphone qui s'arrête à 3000 Hz. C'était assez rigolo.
Vous allez écouter les colonnes qui sortent, vous allez écouter les autres?
Oui, dans des magasins, ça m'arrive. Si la personne que je veux voir est occupée, j'essaie de m'arranger pour prendre un disque et puis aller faire un petit tour sur les enceintes de la concurrence et puis les comparer aux miennes, oui.
Et vous dites quoi? Nya, 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 comme ça?
Non, pas toujours. Des fois, je suis très content, puis d'autres fois, j'ai des sueurs froides.
Qu'est-ce qui détermine la taille d'une colonne? Vous pourriez imaginer que les vôtres aient 20 mètres de haut sur 10 de large? On rigole pas parce que la semaine passée, on était à Séville avec Jean-Luc et on a vu un écran géant qui faisait 60 mètres sur 60 mètres et des colonnes énormes juste à côté.
Pour trancher le quart, mais c'est à peu près ça.
Non, alors bon, là, si vous parlez d'enceinte de sonorisation, c'est assez différent parce que dans le cas de la sonorisation, il y a un niveau sonore qui est tellement énorme à atteindre qu'on est dans des conditions complètement différentes de l'écoute domestique. Dans une enceinte domestique, le problème est quand même un petit peu différent parce que si on veut faire un boîtier très grand, ce sera pour descendre plus bas en fréquence, c'est-à-dire avoir plus d'extrêmes graves. Et dans une enceinte de sonorisation, le rendement est prédominant, c'est-à-dire que si on monte en rendement, on doit avoir plus de volume pour avoir quand même un petit peu de grave.
Jean-Maurice, vous avez l'oreille absolue ?
Non, pas dans le sens musical, je crois pas. Non, je pourrais pas dire qu'un son est telle note. D'abord, je suis pas musicien. J'arrive à localiser un problème en fréquence par professionnalisme. J'ai l'habitude d'entendre des haut-parleurs et s'il y a quelque chose qui me gêne, j'arrive à dire dans quelle zone de fréquence il se trouvera, mais j'ai pas l'oreille absolue musicalement parlant.
Est-ce que si nous avions été, nous, humains, conçus différemment, en entendant des fréquences beaucoup plus basses et beaucoup plus aiguës, en ayant une palette beaucoup plus large, est-ce qu'à votre avis, la vie serait agréable ?
Non, je pense qu'elle serait peut-être beaucoup plus pénible, parce qu'on serait agressé par plus de bruit, par une étendue spectrale plus grande de bruit. Je pense que c'est très bien comme ça. Je voudrais pas non plus qu'on soit plus étroit. Je pense qu'on est bien dans l'univers qui est le nôtre, et la largeur de bande audible fait partie de l'évolution de l'humain. Je pense qu'on est bien adapté à notre milieu.
Tout à l'heure, dans votre appartement, Jean Maurer, on a entendu une chanson de William Scheller. Et on entendait tout, on entendait le bruit des pieds sur les pédales, ce qu'on n'entend pas normalement. Vous aimez ce rendu, cette fidélité absolue ?
Ah oui,
enfin,
moi,
absolue, entre guillemets, peut-être.
Moi, je la recherche énormément, oui. Tous les petits défauts du doigt qui se déplace sur une contrebasse, pour moi, doivent être restitués. C'est ça, la musique la moins en conserve possible. Elle comporte les bruits du pédalier de l'orgue, les pages du lutrin qui se tournent. Oui.